Dimanche dernier, nous avons commencé une série d'études sur le personnage de Job. Et bien sûr, quand on pense à Job, nous pensons toujours à l'épreuve. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible ne dit pas grand-chose sur ce qui était avant l'épreuve. Il aurait pu nous décrire combien il vivait, comment il vivait dans l'abondance, comment Dieu avait béni. Mais Dieu ne parle pas de cela. Et puis ensuite, à la fin, on sait que ça se termine bien et qu'il est dans l'abondance, mais la Bible ne décrit pas cela non plus. Tout ce qu'il nous décrit, c'est l'épreuve. Et c'est ce qui nous console aussi. Hein, parce que lorsque nous passons par l'épreuve, eh bien, ce n'est pas de savoir comment les autres sont à l'aise et sont bénis, mais c'est de savoir comment ils ont enduré l'épreuve. Et même tout à l'heure, dans le cantique dont nous chantions « Mon Dieu, plus près de toi », eh bien, il y avait « Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi, alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi. » Il dit aussi « Donne-moi ton secours, soutiens ma foi, que Satan se déchaîne, ton amour me ramène plus près de toi. » Et c'est vrai que même l'enfant de Dieu, le chrétien, passe par l'épreuve. Nous avions vu la semaine dernière que Job, tout en étant, selon les paroles de Dieu, un homme intègre et droit, mais ce n'est pas pour cela qu'il n'a pas eu une épreuve, et une épreuve comme on ne voudrait pas avoir. Oui, alors je vous encourage à ouvrir vos Bibles dans le livre de Job. Et nous allons voir, aujourd'hui, nous allons voir les bienfaits de l'épreuve. Il y a une partie désagréable, mais il y a ce que Dieu veut réaliser, ce que Dieu veut faire. Comme d'habitude, et je le répète, la tentation, c'est Satan qui veut nous faire chuter. Il nous tente par quelque chose qui est dans notre vie, par une passion que nous avons dans notre vie, et il se sert de cela pour nous faire chuter. Dieu ne nous tente jamais pour nous faire chuter. Dieu permet l'épreuve, et c'est pour nous avancer, même si c'est désagréable pendant un temps. Et ce matin, je ne connais pas l'état de chacun, mais ce que je sais, c'est que peu importe l'état dans lequel nous sommes, lorsque nous venons à Dieu, peu importe ce qu'on a pu faire dans cette semaine ou avant, peu importe ce qu'on a pu dire à quelqu'un, peu importe ce qu'on a pu subir, peu importe les pensées qu'on a eues même ce matin, ce que je sais, c'est que lorsque nous nous présentons à Dieu, il nous reçoit. Et c'est pas toujours le cas dans le monde. Dans le monde, ils préfèrent recevoir des gens qui sont bien, bien habillés, qui sentent bon, qui sont... Ceux-là, ils sont toujours bien reçus. Et ceux qui arrivent avec des gros moyens, et puis surtout si on arrive avec une grosse voiture, alors c'est encore mieux bien reçu. Ça, c'est le monde. Hein, on ne peut pas le changer, c'est comme ça. Mais pour Jésus-Christ, c'est pas tellement dans quel état je me trouve, c'est le fait de venir à lui qui lui fait plaisir. Il a dit, tu as pensé à moi, tu es venu vers moi. Eh bien, je te reçois. C'est ça qu'il trouve agréable. Et donc, ce matin, eh bien, nous voyons Job qui ne demandait rien, qui vivait dans son intégrité, et Dieu va permettre qu'il soit éprouvé. Il nous dit dans le verset 8, hein, donc Job chapitre 1, verset 8, il nous dit, et ça c'est les paroles de Dieu qui le dit à Satan, et Satan ne le contredit pas. Il dit, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. » Ça c'est ce que Dieu dit à Satan. Satan qui sait plus que beaucoup de monde, et Satan ne peut pas contredire. Il dit, il n'y a pas un qui soit comme lui. Mais, même si Dieu fait des compliments sur quelqu'un, même si Dieu bénit la vie de quelqu'un, ça ne veut pas dire que la personne n'a rien à se reprocher. Ça ne veut pas dire que l'homme est parfait. Dieu a dit de Corneille, dans Actes chapitre 10, Dieu a dit de Corneille, c'est un homme intègre, qui craint Dieu, qui est généreux avec Dieu. Mais Corneille, c'était quand même, il avait un besoin. Il avait besoin que Dieu lui apporte quelque chose. Il avait besoin d'entendre parler de Jésus-Christ. Il avait besoin de recevoir Jésus-Christ. Donc le fait que Dieu fasse un compliment sur quelqu'un, le fait qu'il bénisse quelqu'un, eh bien ne veut pas dire que Dieu ne lui reproche rien et que Dieu le trouve parfait. Hein, faisons très attention, et de nos jours, il peut y avoir des serviteurs de Dieu, il peut y avoir des grands évangélistes, et puis on leur dit, regarde la bénédiction de Dieu sur celui-là, mais ça ne veut pas dire que Dieu approuve tout ce qu'il fait. Hein, et souvenons-nous de cela. Donc ici, Job, même si Dieu fait un compliment, mais si Dieu permet l'épreuve, c'est parce qu'il a l'intention de faire quelque chose dans la vie de Job, lui faire voir quelque chose qu'il ne voit pas. Hein, vous savez, Jésus a parlé, il a dit, tu arrives à voir la paille qui est dans l'œil de ton frère et tu n'arrives pas à voir la poutre qui est dans ton œil. Des fois, même quand on est bien disposé, même quand on a de bonnes intentions, parfois on n'arrive pas à voir quelque chose dans notre propre vie. Dieu va se servir de cette épreuve, parce que Dieu ne fait pas souffrir gratuitement. Dieu ne dit pas, il va très bien, écoute, Satan, si tu as envie de le faire souffrir, vas-y, un coup, ça ne lui fera pas de mal. Non, c'est pas ça que Dieu... Quand Dieu permet quelque chose, et Dieu sait qu'il a une intention, il a une œuvre à accomplir. Il y a toujours, la question c'est que quand je passe par un moment difficile, je dois me dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux réaliser dans ma vie? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Où veux-tu m'amener? Au lieu d'avoir les yeux sur le diable, ou sur le voisin qui est méchant, ou sur le frère qui a dit quelque chose, au lieu de s'occuper de cela, c'est tout de suite... Quand je sens que c'est une épreuve, quand je sens que c'est dur, de dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu as à m'apprendre cette fois-ci? Et ça changera toute la tournure de l'épreuve. Job, il a eu du mal à vraiment comprendre que Dieu voulait son bien. Et donc, les chapitres sont un peu longs. Et parfois, nous sommes aussi lents à comprendre que Dieu veut notre bien dans une épreuve. Et il le comprend, et Dieu ne reproche pas, et c'est ça qui me rassure énormément, c'est qu'à la fin... Dieu ne reproche rien à Job. Il dit, je sais que c'est difficile. Quand on a mal, c'est difficile de penser des gentilles choses. C'est vrai. Hein, vous l'avez peut-être vécu, moi en tous les cas je l'ai vécu. C'est dans le métro, quelqu'un est en train d'écraser mon orteil, je ne suis pas en train de dire, la personne elle est vraiment gentille. Hein, je ne suis pas en train de penser ça. C'est difficile de penser des belles choses sur quelqu'un quand on a mal. Dieu comprend, c'est normal. Alors, lorsque je lis dans Jacques, restez dans Job parce qu'on va y revenir, mais dans Jacques chapitre 1, je lis un verset, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que, voilà, vous le savez au profond de vous, vous devez... bien assimiler cela avant l'épreuve, parce que c'est pas pendant l'épreuve qu'on y pense. Donc il faut déjà se préparer. Quand tout va bien, c'est à ce moment-là. Hein, vous savez, quand le chasseur les athlètes pour les Olympiques mondiales, là, eh bien, c'est pas au moment de l'épreuve qu'il se dit « Bon, maintenant, il va falloir que je fasse un effort. » Non, il y pense depuis des mois. Il se prépare pour le jour de l'épreuve. Parce que sinon, il n'est pas en état pour l'épreuve. Il dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Il dit « Sachez que l'épreuve de votre foi produit le résultat, c'est la patience. Il y a combien d'entre nous où la patience, ça vient tout seul? La patience, nous l'avons jusqu'au moment où on en a besoin. Et puis après, on n'en entre plus. Hein. Il dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfait et accompli. Il a dit, il faut que vous appreniez la patience parce que c'est lorsque vous avez la patience agit que l'œuvre de Dieu s'accomplit. Et la patience, eh bien, bon, c'est un fruit de l'esprit déjà. Donc ça veut dire que ce n'est pas le diable qui va nous apprendre la patience. Ce n'est pas dans ce monde qu'on va apprendre la patience, c'est seulement lorsque Dieu agit en nous. Et les gens les plus patients sont les gens qui ont souffert le plus. Ceux qui ont marché avec le Seigneur. Celui qui a toujours eu ce qu'il voulait, regardez un enfant gâté, celui qui a toujours eu tout ce qu'il voulait, le jour où il doit attendre 5 minutes, il fait la révolution. Tandis que ceux qui ont, ils sont habitués à la souffrance, et je ne sais pas comment on peut être habitué à la souffrance, mais ceux, il y en a qui sont habitués à la souffrance, tellement ils n'ont connu que ça, eh bien eux restent, ils attendent. Vous voyez dans les pays, là où ils attendent, ils font la queue pour attendre, pour avoir juste un bol de soupe, ils sont là pendant des heures et ils attendent tranquillement. Alors que celui qui est le gâté, qui mange tous les jours, et puis s'il va une heure sans manger, il fait la révolution. Celui-là, il attend pas du tout. On lui dit, attends, je veux tout de suite. Hein? La souffrance enseigne la patience. Alors, comme la patience est un fruit de l'esprit, comme la patience est quelque chose qui caractérise l'enfant de Dieu, la patience est même caractérise Dieu. Combien de temps est-ce que Dieu a été patient avec vous? Oh! Il a été patient avec chacun d'entre nous. Et il l'est encore. Et remarquez que, il dit dans Jacques chapitre 5, il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job. Ah, ben oui, la patience de Job. Il dit, c'est Jacques chapitre 5 verset 11, il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est intéressant, parce qu'il dit que Dieu, on sait que Job a appris la patience parce qu'il a été éprouvé, et puis Dieu l'a béni après, mais il a dit, il l'a béni non pas parce qu'il a été fidèle dans l'épreuve, il le bénit parce que Dieu est miséricordieux et compassionné. Et rempli de compassion. Vous savez, si quelqu'un reçoit une bénédiction quelconque, petite ou grande, de la part de Dieu, c'est pas parce que moi j'étais bon, c'est parce que Dieu a été bon. Hein, c'est toujours par sa miséricorde. On ne doit jamais recevoir une bénédiction de Dieu et puis après se dire, ouais, t'as vu, j'ai été béni, hein, le Seigneur m'a donné. Non, il a eu pitié de toi et t'a béni. Parce qu'aucun de nous sommes dignes de recevoir une bénédiction quelconque de la part de Dieu. Alors nous allons, qu'est-ce que Dieu veut faire dans la vie de Job? Qu'est-ce qu'on pourrait bien trouver dans la vie de Job que Dieu voudrait améliorer? Eh bien, je vous propose de regarder dans sa situation familiale. Ce n'est pas quelque chose qui ressort très fortement, mais je vais essayer d'utiliser ça quand même pour rappeler certaines choses. D'abord, son épouse. Le texte nous dit très peu sur son épouse. Hein. Mais lorsque Satan a voulu éprouver Job, Dieu lui a dit, écoute, tu peux toucher à tout ce qui lui appartient, mais tu ne touches pas à Job. Et Satan, eh ben, il n'a pas attendu longtemps. Il a profité l'opportunité et il a dit, je vais toucher. Il a touché à tout ce qui appartenait à Job. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il a touché aux enfants. Ils sont tous morts le même jour. Et il n'a pas touché l'épouse. Vous savez, Satan cherche toujours à faire ce qui fera un maximum de dégâts. Et je trouve très curieux que Satan prenne tous les enfants, mais qu'il lui laisse l'épouse. Et peut-être savait-il qu'il pourrait se servir d'elle? Et nous voyons que, alors qu'il est au sein de l'épreuve, qu'il est, son corps est couvert d'ulcères depuis le sommet de la tête jusqu'à la plante des pieds, d'ulcères, et puis je ne vais pas vous décrire, je vous laisse imaginer le pire, ça suffira. Et elle vient vers lui et lui dit, écoute, maudit Dieu, il meurt. Alors qu'il a besoin de quelqu'un pour l'encourager, le soutenir, elle dit, maudit Dieu, il meurt. C'est pas qu'elle se propose de mourir elle-même, non, 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 toi meurs. C'est quand même bizarre comme réaction. Juste quand Dieu nous donne une épouse pour être notre compagne, pour nous soutenir, pour nous encourager, pour être là quand personne d'autre est là, et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, l'enfonce. Et je me demande, puisqu'elle dit « maudit Dieu », pourquoi lui dire de maudire Dieu, de lui dire « écoute, tu souffres tellement, écoute, meurs, comme ça tu ne souffriras plus », au moins de dire ça. Mais elle dit « maudit Dieu », la pire des choses, elle lui propose la pire des réactions, « maudit Dieu » et meurt. Et je me demande s'il n'y avait pas un reste d'amertume dans son cœur. S'il n'y avait pas quelque chose qu'elle avait contre Dieu. Peut-être que Dieu ne lui avait pas donné ce qu'elle voulait. Peut-être que Dieu, il y a quelque chose. Et vous savez, et je dis ça en passant parce que là, je ne sais pas si ça concerne la femme de Job, mais je sais que ça concerne beaucoup de chrétiens. Parfois, on garde dans notre cœur des choses. M'ont dit, parfois il y a un squelette dans le placard de la maison. Et on ferme la porte, mais moi je sais qu'il y a un squelette là-dedans. Hein? On a été horrifiés lorsqu'on a entendu aux informations que quelqu'un aurait pu mettre un bébé dans le congélateur. Mais combien d'entre nous avons des squelettes cachés dans nos vies? Des choses, des restes. Des choses que personne ne sait, mais moi je sais. Mais c'est des choses qui pourrissent à l'intérieur. Et qui nous affectent. Et puis le jour où il y a l'épreuve, le jour où il y a la difficulté, c'est là où ça sort et ça explose. Et on dit, d'où ça sort? Et peut-être qu'il y avait quelque chose dans le cœur de cette épouse de Job. C'est qu'il y a une amertume là. Et dans 1 Pierre... Il nous parle dans Jacques chapitre 3, il nous parle des racines d'amertume. L'amertume, quand ça ne reste pas figé, ça commence à pousser, ça pousse des racines, pas des feuilles et des fleurs. Mais l'amertume, ça travaille et ça s'enfonce et ça pénètre, les racines vont dans tous les domaines de notre vie. Et peut-être que vous avez déjà rencontré des personnes qui sont amères, vraiment amères, et ça affecte tout. Même si vous le faites... un geste gentil dit merci. Mais moi non, j'ai rien fait. Vous savez, parce que l'amertume, si on la laisse faire, elle commence à affecter partout. Même notre gentillesse est marquée par l'amertume qu'il y a dans le cœur. Et donc là, elle, sa réaction lorsqu'elle voit son fils et son mari dans tel état, elle dit oui, écoute, maudit Dieu, et meurt, et puis c'est terminé. Comme si c'est terminé. C'est pas parce qu'on meurt que c'est terminé. C'est qu'on fait face à Dieu ailleurs, c'est tout. Et ce que je remarque, c'est qu'à la fin du livre de Job, dans le chapitre 42, lorsqu'il nous parle de Job dans la bénédiction, il nous parle qu'il a eu des enfants, mais il ne dit rien sur son épouse. Et donc, je dis... il y a quelque chose, peut-être, qui n'a pas été et qui ne convient pas. Donc, son épouse, un problème. Et Dieu va développer, dans l'épreuve, eh bien, au niveau de l'épreuve, il va faire ressortir. Et peut-être que la femme de Job paraissait très bien, elle était toute belle, toujours un beau sourire, un sourire McDo, vous savez. Hein? Et puis, mais dedans, il y avait quelque chose. Et l'épreuve l'a fait ressortir. Et vous savez, des fois, le Seigneur a besoin parfois de nous faire passer par quelque chose pour nous faire... Vous savez, c'est l'abcès qui a... Et puis on dit, wow, je ne savais pas qu'il y avait tant là-dedans. Mais vous savez, parfois le Seigneur a besoin de l'épreuve, d'utiliser l'épreuve pour nous rendre conscients de quelque chose qui existe dans notre cœur. Il n'y a rien pour soigner l'amertume comme le pardon. Vous commencez à pardonner, je dis, oui, mais il n'a pas changé. C'est pas grave. Le pardon, c'est pour moi. C'est pour mon bien. Le pardon me délivre. Après, lui, s'il règle les choses, il sera soulagé. Mais s'il ne les règle pas, c'est son problème. Mais c'est à moi de lui pardonner afin d'être libéré de lui. Sinon, cette amertume, c'est les chaînes qu'il tient à mon cou et il me contrôle et il influence toutes mes perspectives, toute ma manière de voir la vie. Tandis que quand je pardonne, eh bien là, maintenant, je suis libre de voir les choses comme elles sont. Alors, je dis ça en passant, je me sers de l'épouse de Job pour faire ressortir cela. Et puis ensuite, je veux parler de ses enfants. Ses enfants, les enfants sont mentionnés au début du livre, et puis après, d'autres enfants sont mentionnés à la fin. Donc, si Job a perdu ses enfants, c'est pas parce que Dieu ne voulait pas que Job ait des enfants, parce qu'il lui en a donné à la fin. Donc, bien sûr, ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qui est un problème pour Dieu. C'est, bien sûr, Satan, vous savez, ça fait très mal, c'est quand quelque chose touche nos enfants. Quand ça touche autre chose, on peut supporter. Mais quand ça touche nos enfants, ça fait mal et Satan a voulu faire... L'intention était de faire mal. Job avait 7 fils et 3 filles, il nous dit dans le chapitre 1, et vous allez dans le chapitre 42, eh bien, Dieu lui a donné 7 fils et 3 filles. Il lui a tout rendu. Je pourrais dire en passant, et si vous voulez faites le calcul, vous regardez ce que Job possédait, la liste des animaux, le nombre d'animaux qu'il avait dans le chapitre 1, et vous regardez dans le chapitre 42, et vous trouvez qu'il a le double exactement de tout, du nombre de chameaux, du nombre de moutons, de tout. Il a le double de tout, sauf le double des enfants. Vous dites, il avait 7 au début et il n'a que 7 à la fin. Vous dites, pourquoi ? S'il a donné le double tout le reste, pourquoi il n'a pas eu 14 enfants ? Ah, parce que même quand des enfants meurent, ils sont toujours vivants pour Dieu. Il en avait toujours 14, il en avait 14 à la fin. Même si 4 étaient 7 étaient morts, mais pour Dieu, ils sont encore vivants. Hein, ce n'est pas parce qu'on meurt qu'on n'existe plus. Hein, donc il n'avait pas besoin de faire 14 enfants. 7 plus 7, c'est 14. Et il avait le double. Hein, quand quelqu'un lui demandait, Job, combien tu as eu d'enfants ? Il dit 14. Pas 14, 20. 14 garçons et 6 filles. Hein? C'était toujours, ça existe toujours. On compte toujours. Vous demandez à n'importe quelle maman, vous dites combien vous avez eu d'enfants. Elle compte ceux qui sont et ceux qui ne sont plus. Elle les compte tous. Ce sont toujours ses enfants. Hein? Si c'est là pour une mère, combien plus pour Dieu. Mais le seul, nous savons très peu sur les enfants de Job, sinon. Qu'est-ce qu'on voit dans le chapitre 1 ? C'est qu'ils aimaient faire la fête. Ils étaient toujours en train de faire la fête. Ils se retrouvaient tous les 10 et ils faisaient des festins. Et les festins duraient plusieurs jours. Mais ce que je remarque, c'est que Job n'était jamais invité au festin. Lui, il n'était pas là. Tellement ça se faisait sans lui, qui n'avait aucune idée de ce qui se passait pendant ces festins. Et Job, par bonne conscience, eh bien, après que les enfants terminaient leur fête, eh bien, lui allait offrir un holocauste, se disant, peut-être que mes enfants auraient péché. Il était complètement exclu de leur vie. Ce qui n'est pas une relation normale entre un père et ses enfants. Pourquoi ? Est-ce que ce n'est pas parce que Job ne pouvait plus jouir de la vie, plus goûter, comme Barzilaï qui dit à David dans 2 Samuel 19. Mais les enfants sont là. Vous savez, normalement, les enfants doivent rendre des comptes à leurs parents. S'ils sont à la maison, eh bien, ils doivent dire aux parents où ils sont et ce qu'ils ont fait et avec qui ils étaient. C'est normal. Les enfants rendent des comptes. Tout comme les parents rendent des comptes l'un à l'autre. Hein. Madame rend des comptes à monsieur et monsieur rend des comptes à madame. C'est tout à fait normal. Pour l'être humain, pour que les choses soient en ordre, il faut rendre des comptes l'un à l'autre. À n'importe quel moment, madame peut me dire à qui tu parlais. Il doit pouvoir répondre. Où est-ce que tu étais ? On doit répondre. C'est pas un manque de confiance. Rendre des comptes, ça permet de garder la confiance. C'est une manière de préserver la confiance. Parce que quand on ne sait pas, l'inconnu sème le doute. Tandis que quand on sait, eh bien, il n'y a plus de doute et la confiance est entretenue. Donc, c'est important. Et pour les enfants, c'est important aussi, rendre des comptes où ils étaient, ce qu'ils ont fait, combien de temps ils étaient, quand ils vont rentrer. C'est normal, il n'y a rien de plus normal. Comme ça, il y a des bonnes relations. Mais là, Job, il y a un problème. Alors, je ne sais pas pourquoi. On pourrait penser que les enfants, ben, ils avaient une mauvaise attitude, ils étaient des enfants rebelles, on pourrait penser ça. Mais on pourrait aussi, qui sait, par exemple, c'est peut-être une situation où Job avait déjà des enfants, déjà marié, quand il a rencontré Dieu. Et c'était peut-être pour ça que son épouse était amère contre lui, parce que tout d'un coup, il pense qu'à Dieu, il ne s'amuse plus comme avant. Il cherche plus le plaisir comme avant. Moi, mon mari l'a changé et il y a une amertume là. Peut-être que ça arrive. Hein, certains, nous avons des situations de couple où il y en a un qui a découvert le Seigneur et l'autre ne l'a pas encore. Et ça crée des tensions. Ça se peut que les enfants soient déjà nés. Et quand Job commence avec le Seigneur, on dit, écoute, toi, tu veux ton Dieu, tu grâces avec ton bon Dieu, mais nous, tu nous laisses tranquilles. Et peut-être qu'il y avait cette vie-là. Et Dieu intervient. Mais ce que Dieu donne l'opportunité à Job de refaire sa famille. Et dans cette épreuve, Job qui ne comprend pas ce qui se passe, Job qui souffre terriblement, surtout de solitude, parce que même ses amis sont contre lui, personne de la famille ne vient le voir, il est seul, et puis personne ne le comprend, une solitude terrible. Mais Dieu va agir. Et Dieu, peut-être est-ce que Dieu s'est servi de cette épreuve pour porter un jugement contre ses enfants, pas à cause de leur vie de débauche, peut-être, si c'était le cas. Et donc Dieu donnera une nouvelle famille à Job. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que il y a toutes sortes de situations. Et nous devons venir à Dieu avec nos situations. Et nous devons investir dans nos familles, s'il y a possibilité. Et la Bible nous encourage à essayer de chercher le salut du partenaire qui n'est pas encore au Seigneur. Il nous encourage à chercher à prier pour le salut de nos enfants. Et nous devons, et c'est la pensée de Dieu, et nous devons le faire. Et que Dieu nous aide à rester fidèles. Ce que je remarque, c'est que quand Dieu donne à Job une nouvelle famille, hein, dans le chapitre 42, Dieu donne une nouvelle famille à Job, eh bien, il nous donne les noms de ses filles. Il y a une nouvelle relation. Et puis il ajoute, et mes filles, c'est les plus belles du monde. Tout père devrait penser ça de sa fille. Il dit, mes filles, c'est les plus belles du monde. Comme tout mari doit penser que sa femme, c'est la plus belle du monde. Quand il y a cette relation, eh bien, ses yeux, ce ne sont que pour elle. Pas seulement au moment des fiançailles, mais le reste de la vie. Et pour les enfants, eh bien, ce sont ceux qui sont ma responsabilité. Et je veux les encourager, je veux faire les aider à se développer et obtenir le maximum. Je me demande parfois si Job était tellement intéressé, parce qu'il nous dit dans le chapitre 31, il nous disait « Je m'occupais des veuves, je m'occupais des orphelins, je m'occupais de ceux qui étaient dans le malheur, j'aidais tout le monde. » Et je me demande « Job, est-ce que tu étais tellement occupé, préoccupé avec tous les autres qui souffraient que tu as oublié ta famille ?» Et ça arrive aussi. C'est qu'on est tellement occupé à... Et ça arrive, et les pasteurs sont coupables de cela. Ils sont tellement occupés à aider les autres qu'ils oublient leur propre maison. N'importe qui veut leur parler, ils parlent. Madame veut leur parler, attends, je suis occupé. Et donc, nous devons faire très attention. Et là, Dieu permet l'épreuve. Satan veut détruire Job, mais Dieu veut reconstruire Job. Et veut le reconstruire autrement. Et à la gloire de Dieu. Et Job a élevé une deuxième famille et est tellement contraire aux traditions de l'époque, ce n'est que les fils qui héritaient, ben lui, il nous dit dans 42, il va faire hériter même ses filles, tellement il était attaché à elles. Ou que nous puissions aussi nos enfants les faire hériter de notre amour pour Dieu, de notre attachement à Dieu, de ce que nous avons reçu en Dieu, qu'ils puissent hériter de cette foi que nous avons en Jésus-Christ, de que puissions leur transmettre ce que nous avons. En fait, donc, quand je regarde à cette épreuve, bon, elle était difficile, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais ce que je veux voir, c'est que l'état final de Job après l'épreuve, c'est une amélioration. Pour Job, ça a été une délivrance. Pour ses enfants, qui était constamment en train de faire des fêtes et il était constamment de dire « Qu'est-ce qu'ils font mes enfants encore ? Qu'est-ce qu'ils font encore ? Oh là là !» Et puis il dit « Dieu, aie pitié d'eux, pardonne-leur !» Et il est là en train de... Mais dans l'épreuve, il a été délivré de ses enfants. Et maintenant, il peut construire avec ses nouveaux enfants. Ce qu'on trouve aussi, c'est que les obstacles du passé sont retirés. Job a appris la patience. Job va faire les choses autrement. Peut-être qu'avant l'épreuve, parce qu'il était riche, parce qu'il avait de sa personne, c'était la personne la plus respectée, hein, quand on lit Job 31, c'était une personne très respectée. Il avait de l'influence sur les juges, il avait de l'influence sur tout le monde, il arrivait, et s'il défendait quelqu'un, la personne, eh bien, on la laissait tranquille. Et il comptait sur sa stature et sur son nom. Mais après l'épreuve, certainement qu'il agira autrement. C'est dans la grâce, dans la patience qu'il fera l'œuvre de Dieu et qu'il respectera Dieu. Et vous savez, quand Dieu est à l'œuvre, quand Dieu est derrière la chose, eh bien, ce qui peut paraître être une perte devient un gain. Quand Dieu est dedans. Quand Dieu n'est pas dedans, alors c'est autre chose. Les pertes, c'est des pertes. Ne demandez à n'importe qui dans le monde, quand ils perdent, ils perdent. Et il n'y a personne pour les rattraper, ils sont seuls. Tu perds votre emploi, tout d'un coup, plus d'amis. La personne avec qui il vivait, lui dit, écoute, tu ne peux pas payer le loyer, ben dégage. Et c'est ça, c'est la réalité dans le monde. Tu perds, tu es perdant. Mais avec Dieu, quand c'est lui qui est dedans, et quand je perds, c'est pour gagner. Parce qu'il me fait accéder à autre chose. Et c'est là où nous avons besoin de cette patience, parce que nous savons que Dieu est en train d'accomplir quelque chose. Je veux terminer avec un passage dans Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, et les versets 7 et 8. C'est Paul qui parle des choses qu'il avait avant. Il dit avant, j'avais une bonne réputation. J'étais bien vu de tous. Personne ne pouvait m'accuser de quoi que ce soit. Il dit, j'étais pharisien des pharisiens. J'étais plus pur que les meilleurs. Mais il dit, maintenant, je regarde cela comme une perte. Afin de gagner Christ. Et parfois, nous avons besoin de passer par cette expérience, des choses à laquelle on s'attachait avant, on voulait à tout prix, et on payait tout, on se disciplinait pour l'avoir. Maintenant, il dit, tout cela, je le laisse afin de gagner Christ. Job a dû arriver au point où il a dit, moi, tant pis pour tout cela, je reste attaché à mon Dieu. Et donc, ici, l'apôtre Paul dit au verset 7, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Job était un homme intègre et juste selon la loi. Après, à la fin du livre, c'est un homme juste, mais par la foi en Dieu. Et nous avons besoin de chacun qui est enfant de Dieu. Comment devenir enfant de Dieu? C'est, vous reconnaissez les faits que Christ est mort sur la croix. Et dites, pourquoi est-ce qu'il est mort? Ben, il n'est pas mort pour ses propres péchés parce qu'il n'en a pas commis. Il est mort pour mon péché. Et lorsque je dis au Père, je dis Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que Christ est mort pour le péché. Je veux que son sang me purifie de mon péché. Je me donne à toi. Et bien à ce moment-là, il me pardonne. Et comme on a dit, le pardon délivre. Et puis tout d'un coup, j'ai une nouvelle relation avec Dieu. Et je désire vivre pour lui. Et lui désire mon bien. Et il me prépare une place. Afin que là où il est, je puisse être aussi. Mais Dieu, je deviens enfant de Dieu. Et après, peut-être, il y a des choses auxquelles on tient attaché, une certaine intégrité, un certain honneur, un certain ceci, j'ai une certaine connaissance, on ne me respecte pas pour qui je suis. Toutes ces choses-là, il dit, écoute, lâche tout cela, parce que ça te rend malheureux, parce que chaque fois que quelqu'un le touche, tu t'énerves. Donc, ce n'est pas bon. Si quelqu'un te critique sur ce point-là, tu ne lui parles plus. Et tu es contre... Tu fais le contraire de ce que doit faire l'enfant de Dieu. Donc, lâche ces choses, lâche cela, et puis attache-toi à Jésus-Christ. Parce que quand quelqu'un dit du mal de Christ, on ne l'insulte pas, on comprend. On dit c'est de l'ignorance, Dieu pardonne-le. Les réactions sont autres lorsque Jésus est notre seul bien. Et nous devons rester attachés à lui. Et parfois, le Seigneur a besoin de nous faire passer par l'épreuve pour nous dire, écoute, ce à quoi tu es attaché, eh ben, tu sais, tu ne peux pas le garder. Tu n'es pas assez fort pour le garder. Tu n'es pas assez fort pour le protéger de tout le monde. Mais moi, je me donne à toi. Et personne ne peut te séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun d'entre nous. Notre Dieu est le Dieu de la Bible. Je ne dis pas le bon Dieu, je dis le Dieu de la Bible, celui que la Bible décrit. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « je crois en Dieu », mais bon, je ne sais pas quel Dieu. Et eux non plus, ils ne savent pas. Mais le Dieu de la Bible, eh bien, c'est un Dieu merveilleux qui cherche notre bien. Et nous devons rester attachés à lui en tout temps. Job, à la fin de l'épreuve, il a une nouvelle perspective sur la vie. Il voit tout autrement. Parce qu'il a traversé l'épreuve et il est resté fidèle. Oui, soyons fidèles jusqu'au bout. C'est lui qui détermine la durée parce que c'est lui qui sait doser. Et c'est lui qui... Son intention, c'est notre bien, c'est pour nous construire et nous rendre meilleurs à sa gloire. Prions.